Donc on est dans le livre d'Actes au chapitre 14. À Iconium, Paul et Barnabas entrèrent aussi dans la synagogue des Juifs et parlèrent de telle manière qu'une grande multitude de Juifs et de Grecs crurent. Mais les Juifs restés incrédules excitèrent les païens et les disposèrent au mal contre les frères. Ils séjournèrent assez longtemps à Iconium. Ils parlaient plein d'assurance dans le Seigneur et rendaient témoignage à la parole de sa grâce et leur accordait de voir des signes et des prodiges se produire par leurs mains. La multitude dans la ville se divisa. Les uns étaient avec les Juifs, les autres avec les apôtres. Et comme les païens et les Juifs, avec leurs chefs, se mettaient en mouvement pour les maltraiter et les lapider, Paul et Barnabas, après réflexion, se réfugièrent dans les villes de Lycaonie, Lystre et Derbe, et dans les environs. Ils y annoncèrent l'Évangile. Donc on est au milieu du premier voyage missionnaire de Paul et Barnabas. On a vu qu'ils étaient passés par Chypre et qu'ensuite ils avaient rejoint le continent, dans le territoire qui aujourd'hui est la Turquie, et qui sont remontés, on a les cartes, un petit peu au centre de la Turquie. Et donc ils étaient passés à Antioche de Pisidie et ils avaient continué. Et est arrivé donc ici au début du chapitre à Iconium. Et encore une fois, on les voit profiter des occasions de parler dans les synagogues, des coutumes des synagogues qui laissaient les gens venir s'exprimer pour parler. Et ici, on voit qu'ils ont un grand succès. Une grande multitude de Juifs et de Grecs crurent. Et là, on a un fort contraste avec ce qui s'était passé précédemment, où ils étaient partis en étant persécutés et en secouant la poussière de leurs pieds dans la ville précédente. Ça avait pas vraiment donné le sentiment d'une grande réussite. Et on peut se dire que c'était peut-être le Saint-Esprit qui avait laissé la persécution les pousser vers Iconium pour toucher les gens qu'on voit ici qui commencent à croire. Une opposition se fait sentir, encore une persécution contre eux, mais ils restent assez longtemps à Iconium, parlant plein d'assurance dans le Seigneur, ils rendent témoignage à la parole de sa grâce, et il leur accordait de voir des signes et des prodiges se produire par leurs mains. Donc ils continuent d'annoncer Jésus, d'annoncer la grâce du salut par Jésus, ils font des miracles, et ils restent aussi longtemps que possible pour fortifier les croyants dans la ville. Et au bout d'un moment, la ville se divise. Les uns étaient avec les Juifs et les autres avec les apôtres. Ce qu'on voit au verset 4. Et ils se mettent en tête de les maltraiter, de les lapider. Donc Paul et Barnabas, après réflexion. Ça me fait rire, ça. Tiens, est-ce qu'on reste? On se fait lapider ou est-ce qu'on va quelque part d'autre? Après réflexion, ils ne cherchaient pas forcément tout de suite à être tués pour Jésus. Ce n'était pas leur premier objectif. Ils font quand même un petit effort pour préserver leur vie en passant un peu plus loin. Et donc, ils s'enfuient direction Lystre et Derbe, qui sont les deux villes qu'on va regarder après. Et donc, je faisais remarquer aux gens qui étaient là un petit peu avant que sur la carte que je vous ai donnée, qui vient de Sciences Po, alors sur vos feuilles, c'est celle qui est en haut. Ils ont inversé Lystre et Iconium, et du coup, l'histoire est un peu moins sensée, parce qu'on dirait qu'ils partent d'Iconium dans un sens, et qu'après, pour revenir, ils repasseraient par. Mais ils vont dans une direction vers Lystre et Derbe, et ils restent dans cette direction-là. Et donc, on va lire la suite. Verset 7, ils y annoncèrent l'Évangile. À Lystre se tenait assis un homme impotent des pieds, infirme de naissance et qui n'avait jamais marché. Il écoutait parler Paul, qui fixa les regards sur lui et qui, voyant qu'il avait la foi pour être sauvé, dit d'une voix forte, « Lève-toi, droit sur tes pieds. » Il se leva d'un bond et se mit à marcher. À la vue de ce que Paul avait fait, les foules élevèrent la voix et dirent en langue lycaonienne, « Les dieux sous forme humaine sont descendus vers nous. » Ils appelaient Barnabas, Zeus et Paul Hermès, parce que c'était lui qui portait la parole. Le prêtre du Zeus qui est devant la ville amena des taureaux et des guirlandes vers les portes et voulait, de même que les foules, offrir un sacrifice. Les apôtres Barnabas et Paul la prirent, déchirèrent leurs vêtements et se précipitèrent au milieu de la foule en criant aux hommes : « Pourquoi faites-vous cela ? Nous sommes, nous aussi, des hommes de même nature que vous, et nous vous annonçons comme une bonne nouvelle qu'il vous faut vous détourner de ces vanités et vous convertir au Dieu vivant qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Dans les générations passées, il a laissé toutes les nations suivre leur propre voie, quoiqu'il n'ait cessé de rendre témoignage de ce qu'il est par ses bienfaits, en vous donnant du ciel, les pluies et les saisons fertiles, en vous comblant de nourriture et de bonheur dans le cœur. » À peine purent-ils, par ces paroles, empêcher les foules de leur offrir un sacrifice. Puis survinrent d'Antioche et d'Iconium des Juifs qui gagnèrent les foules, lapidèrent Paul et le traînèrent hors de la ville, pensant qu'il était mort. Mais les disciples l'entourèrent, il se leva et rentra dans la ville. Donc il s'enfuit vers Lystre et Derbe. Lystre, premièrement, comme on peut le voir sur la carte, c'était la première ville qu'ils ont rencontrée, partant d'Iconium. Première grande ville. Ils y annoncent l'évangile, comme ils avaient l'habitude de le faire. Et à Lystre, ils croisent un homme impotent des pieds, infirme de naissance qui n'avait jamais marché. On n'en voit pas. Là, quand ils disent impotent des pieds, moi, c'est un truc, je vois pas trop ce que ça veut dire. Enfin, je trouve que dans notre société, on en voit moins de choses comme ça. Enfin, on ne voit pas des gens avec des membres, on en voit, mais moins. Ils sont en chaise roulante, mais disons qu'on le cache aussi souvent. Enfin, on cache les infirmités, les choses comme ça. En tout cas, il n'avait jamais marché. Il écoute parler Paul. Donc, il écoute Paul annoncer l'évangile. Paul le regarde. Et là, on a un verset, on a quelque chose d'intéressant quand il dit, voyant qu'il avait la foi pour être sauvé, dit d'une voix forte, lève-toi droit sur tes pieds. Il y a plusieurs choses à noter ici. La première, c'est que Paul et Barnabas n'avaient pas forcément pour objectif principal de faire des miracles. Pourquoi est-ce que c'est bon de noter ça? Vous avez des idées ou pas? Pourquoi c'est bon de voir que leur objectif, c'était d'annoncer l'évangile et pas de faire des miracles et de guérir les gens, forcément, physiquement?
Parce qu'il y a des chrétiens qui sont dans cet objectif-là.
Disons que c'est... Quand on regarde toutes ces histoires-là, c'était rarement... Ils n'étaient jamais là à dire « Réunissez-vous jeudi soir, on va vous guérir, ça va être bien, on va avoir un meeting. » C'était sur le moment, dirigé par l'Esprit-Saint, c'était pas des trucs prévus. Et leur objectif principal, c'était d'annoncer l'Évangile.
Mais je pense qu'ils suivent Jésus, c'est exactement ce que Jésus a fait. Mm-hmm. Il y a un moment, quand il est avec ses disciples, les disciples veulent qu'il reste en Galilée pour guérir plus de malades. Et il leur dit qu'il faut qu'il aille ailleurs pour annoncer. Mmh. Et ça montre aussi que leur priorité, c'est la guérison spirituelle, je pense.
Mmh. C'est intéressant parce qu'on a ce contraste où il dit, voyant qu'il avait la foi pour être sauvé, et on se dit, mais voyant qu'il avait la foi pour être sauvé, il le guérit physiquement, mais c'est un peu, on se dit, mais...
Mais comment tu vois quelqu'un à la foi pour être sauvé physiquement?
Ben là, on peut supposer que Paul avait a eu un don de discernement vis-à-vis de la personne, a vu... Déjà, on peut voir... quand on parle aux gens, tu peux voir un petit peu la manière dont réagissent les gens, quoi, ça se voit dans leurs yeux, souvent.
Non, mais Paul, il fait que le fixer, hein.
Quoi?
Enfin, on sait pas s'il se parle, hein. L'autre, il écoute Paul parler.
J'ai pas dit qu'il se parlait, mais je veux dire, tu peux voir dans le visage des gens comment ils réagissent, on le voit pas forcément. Je pense que Paul a eu un don de discernement, mais je veux dire, tu vois aussi l'attentivité de quelqu'un et l'attention de quelqu'un pour ce que t'es en train d'annoncer ou de dire. Et donc, voyant ce qui est écrit, on peut penser que l'infirme se disait que Jésus pouvait être une solution pour lui, pouvait le sauver. Il se pensait sans doute plus à ce que Paul annonçait et à ce côté spirituel des choses. On ne sait pas exactement pourquoi Paul a vu, mais le texte nous dit qu'il a vu qu'il avait la foi pour être sauvé. Et l'homme fait preuve de foi, fait preuve de sa foi en obéissant à Paul, en répondant et en essayant de se lever. Il aurait pu aussi rester assis et dire non mais t'es un guignol, toi. Je suis un fils de naissance, j'ai jamais marché, tu me dis de me lever. Mais il lui fait confiance et il y a souvent dans les miracles de guérison, il y a ce mélange entre une annonce et le miracle, mais quand même une réponse à l'annonce avec une foi et une confiance comme on avait déjà dit par exemple avec Pierre et Jean quand il lève l'homme devant le temple et tu te dis bon ben soit il peut se casser la gueule, soit ça peut faire quelque chose de bien, mais il fait preuve de foi en obéissant à la commande de Paul.
Ouais, parce qu'il sait même pas ce que c'est que marcher. C'est de naissance, quoi. C'est un truc. Ouais. Nous, pour apprendre à marcher, on est allé par étapes. Et lui, d'un bond.
Ouais. Et il y a aussi, disons que Jésus veut nous faire un don, mais la question, c'est est-ce qu'on croit, on le croit ou pas? Et croire ou pas croire, ça, c'est ce qui nous permet ou nous empêche de recevoir le don que Jésus veut nous faire.
Don de Seigneur, est-ce que c'est la foi pour être guéri ou pour être sauvé?
Là, c'est marqué pour être sauvé. Donc
c'est
il s'agit.
Oui. Parce qu'en anglais, il dit pour être healed, comme un exemple physique, mais ici, c'est
sauvé. Moi, je guéris.
Chez Dieu, c'est aussi.
Mm-hmm. On peut penser que c'est guérir.
Guérir physiquement.
D'accord.
Mm-hmm.
Oui. Bah, si on a plusieurs traductions qui pointent plutôt vers une question de guérison et de j'ai pas regardé le texte original. Ça peut être des fois dans le contexte, ça peut être le même mot qui veut dire sauver spirituellement et guérir physiquement, et donc ça peut être un petit peu à la liberté des traducteurs, mais s'il y a plusieurs traductions qui pointent plutôt dans ce sens, je veux bien qu'on penche plutôt dans ce sens là mais dans les deux cas, le fait qu'il croit Paul et croit à ce que Paul annonce, c'est ce qui lui permet de recevoir le don. Il lui fait confiance et l'exprime en obéissant. Et encore une fois, on voit que les miracles ne sauvent personne. Les miracles, ça ne fait qu'attirer l'attention. Le peuple n'ont pas compris du tout. Je ne sais pas s'ils n'écoutaient pas Paul et Barnabas du tout. Et puis soudain, quand ils ont vu la guérison, ils se sont dit, tiens, il se passe quelque chose. Et donc là, ils réagissent. À mon avis, il n'y avait pas vraiment d'incompréhension possible au niveau du discours de Paul par rapport à qui guérit l'homme infirme. Mais donc, ils prennent Paul pour Hermès et Barnabas pour Zeus. À l'époque, c'était quelque chose d'assez commun dans la religion païenne grecque de croire que les dieux pouvaient prendre des formes humaines. C'était toutes les légendes qu'on a étudiées au collège. En France, sur les dieux grecs et romains qui viennent faire des trucs sur Terre. Et il y avait en plus une légende dans ce territoire de l'Istre, dans cette région, qui racontait qu'un jour Zeus et Hermès étaient venus visiter le peuple, et le peuple les avait pas reconnus, et donc Zeus et Hermès, ils s'étaient énervés, ils avaient zigouillé tout le monde. Et donc là, ils s'empressent vite fait de dire bon bah on va pas risquer de refaire la même bourde et on va les reconnaître tout de suite. Hermès, dans la tradition, c'était le messager des dieux, donc c'était celui qui parlait le plus, et donc c'était logiquement pour Paul, parce que c'était lui a priori qui annonçait ici et qui a parlé avec l'homme infirme. Et on voit qu'il parle en langue lycaonienne. Donc Paul et Barnabas ne comprennent pas ce qui se passe et ils commencent à prêter les choses pour leur faire des sacrifices et les vénérer. Et quand Paul et Barnabas comprennent ce qu'ils sont en train de faire, ils déchirent leurs vêtements, ce qui était une réaction typiquement juive. C'était une tradition juive dans un cas de blasphème de déchirer ses vêtements. Donc ici, Paul et Barnabas considéraient cet événement comme quelque chose de très grave, puisqu'ils ne sont pas Dieu du tout, et donc pour eux c'était équivalent à un blasphème. Et ça me permet aussi de montrer c'est une sorte d'humiliation et un moyen de montrer aussi l'humanité, leur humanité peut-être. En tout cas, ils considéraient ça comme quelque chose de très grave. Et Paul leur parle vraiment franchement, verset 15, « Pourquoi faites-vous cela? Nous sommes nous aussi des hommes de même nature que vous, et nous vous annonçons comme une bonne nouvelle qu'il faut vous détourner de ces vanités et vous convertir au Dieu vivant, qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. » Et là, suivant les traductions, quand il parle de vanité, on retrouve des mots, différents mots dans les différentes traductions. Ça peut être traduit par vanité, sottise, futilité, chose inutile. Et l'idée générale, c'est que c'est quelque chose qui ne sert à rien et qui est, complètement inutile et limite idiot. Donc il leur parle quand même franchement en leur disant que leur Dieu ne sert à rien. Et ici, on va le noter parce qu'on va l'utiliser pour le chapitre suivant. Il leur dit, il faut vous détourner de ces choses-là et vous tourner vers le Dieu vivant. Et donc il fait bien une distinction, il ne dit pas, vous pouvez garder vos anciens rites et vos anciens dieux et y ajouter Jésus, faire un petit mélange à votre sauce avec Jésus et puis le reste, comme ça vous chante. Il leur dit, ça ne sert à rien, il faut le laisser derrière vous et vous tourner complètement vers Dieu. Et son discours, est-ce que vous remarquez quelque chose dans ce qu'il dit après, versets 16, 17? Qu'est-ce que ça vous inspire en contraste par rapport aux enseignements qu'on a eus de la part de Paul, Pierre, dans tout le livre jusqu'ici? Est-ce que vous remarquez quelque chose? Vous direz, ah oui, quand je vous le dirai, mais pour l'instant, non.
À part le fait, on dirait que son auditoire est non-juif, il ne reprend pas l'histoire du peuple juif, contrairement aux autres fois, où à chaque fois le discours reprend depuis Abraham ou depuis Moïse. Il retrace un peu l'alliance de Dieu. Là, on comprend que là, c'est des païens qui ne connaissent peut-être pas cet arrière-plan, donc il parle de la création.
Là, c'est dans Actes, c'est le premier enseignement, on n'a pas de référence à l'écriture. On n'a pas de citation, on n'a pas de citation de la Bible. C'est la première fois qu'on le voit dans le livre. Paul s'adapte aux gens qu'il a en face de lui en faisant appel à leur conscience, à leur bon sens, à ce qu'ils connaissent. Il parle d'un Dieu qui est Dieu de toute la création, ce qui contrastait avec leur Dieu qui était souvent limité à certains domaines, ils avaient chacun leur petite spécialité. Et lui, il dit, moi je vous parle de Dieu qui a tout fait, tout l'univers, toute la création, tout ce qui existe. Il parle des bienfaits de Dieu envers eux par la pluie, par les saisons fertiles, par la nourriture, par le bonheur. En note, c'est ce que les théologiens appellent la grâce commune. C'est la grâce que Dieu exprime de manière générale à l'humanité. Et c'est des choses qu'on retrouve par exemple dans le début de Romains, quand il parle du fait que les hommes, en voyant la création, devraient comprendre que Dieu existe, qu'il y a des choses dans la nature qui devraient les marquer. Mais c'est important pour nous de nous rendre compte de son changement de discours ici et de voir qu'il s'adapte à l'auditoire qu'il a en face de lui. Il n'est pas figé, c'est pas un disque cassé qui raconte tout le temps la même chose, mais qui essaie de communiquer avec les gens qu'il a en face de lui, qui essaie de se mettre à leur niveau, de ce qu'ils comprennent. Il aurait pu leur citer plein de choses de l'Ancien Testament, ils auraient dit d'accord, mais je sais pas de quoi tu parles. Dans tous les enseignements précédents, il y avait toujours des citations de l'Ancien Testament en disant que Jésus c'était une réponse, c'était le Messie qui était annoncé par les Écritures, qu'il y avait... que toutes les Écritures en parlent, que c'était annoncé, etc., etc., qu'ils l'ont rejeté, qu'il y avait tout un discours qui était toujours très compréhensible par les Juifs. C'était toujours, ils comprenaient, ils savaient de quoi il s'agissait, ils connaissaient les Écritures. Et ici, il a en face de lui des gens qui ne connaissent pas ces Écritures, qui ne connaissent pas ces références.
Important de souligner justement ce qu'on appelle des fois le patois de Canaan des chrétiens qui parlent en termes de chrétiens. L'agneau, j'ai été racheté par le sang de l'agneau, et les gens autour de nous ne comprennent rien et ne sont pas à même de comprendre. Il n'y a pas longtemps, on a eu une situation comme ça, où dans un groupe, il y avait des chrétiens zélés qui voulaient parler en termes de chrétiens, alors que ça ne voulait rien dire du tout pour les gens qui étaient là, alors qu'on aurait pu leur dire il y a un Dieu qui nous aime, il y a un Dieu qui est bon. Et... Donc c'est très pratique.
Et Paul le fait plusieurs fois, on va le voir plus loin. Suivant l'auditoire qu'il a en face de lui, il change son discours, il s'adresse en prenant des choses que les gens comprennent et que les gens connaissent. Et il ne repart pas avec tout et n'importe quoi. Et donc verset 18, à peine purent-ils par ces paroles empêcher les foules de leur offrir un sacrifice. Donc ils arrivent juste à les calmer. Et après on voit que des juifs le suivent depuis Antioche et d'Iconium. Pour l'attaquer, pour l'embêter, pour le persécuter. Il faut se dire qu'ils ont quand même fait presque 100 km, certains, hein, d'Antioche, de Pisidie, rien que pour lui casser les pieds. Ils étaient quand même très zélés. Je ne sais pas s'il y avait quelqu'un qui disait quelque chose. Et j'étais contre ce qu'il disait, si j'ai ferais 100 bornes pour aller le poursuivre et aller lui taper dessus. Quoi. Je veux dire, même les hooligans au foot, ils vont pas aussi loin quoi, pour poursuivre les supporters des autres équipes. Quoi. Ils étaient bien chauds. Quoi. Et là, c'est marrant aussi, parce que la foule qui était toute émerveillée, qui voulait sacrifier des trucs en disant que c'était c'est Hermès, ben, 5 minutes plus tard, ils se disent, tiens, on va les lapider. C'est quand même rapide.
Encore. Pas accepté leur sacrifice.
Non, je pense pas. Je pense que c'est
pas le même.
Bah, disons que les juifs viennent dans la foule et incitent les gens et motivent la foule. Alors il y en avait sans doute qui étaient pas dans cette ambiance-là, mais disons qu'il y a une grande foule et il y a une majorité qui s'emporte contre Paul et qui décide de le lapider. On ne sait pas exactement pour quel motif.
Mais là, il ne parle pas de la foule, là, il parle juste des juifs.
Les juifs...
La traduction est différente, ouais. Gagnant la foule, c'est peut-être différent.
Qui gagnent les foules, c'est-à-dire qui
gagnent les foules.
C'est-à-dire qu'ils parlent, ils haranguent le peuple, ils ont un genre de débat, quoi, a priori, et puis ils haranguent la foule en disant que Paul est en les accusant de quelque chose ou en excitant les foules contre eux, je ne sais pas exactement comment, mais.
Ça rappelle Jésus, crucifiez-le.
La même foule qu'il a fait.
Oui. Et pour Paul, encore peut-être plus parlant, c'est Étienne. Il fallait se dire, tiens, je me retrouve dans la situation d'Étienne. Donc il le traîne, il le lapide, il le traîne hors de la ville. Donc on avait vu, je vous avais donné une petite description du procédé utilisé pour la lapidation. C'était c'était assez efficace. Il y a pas mal de commentateurs qui pensent que c'est possible que Paul soit en fait mort et que Dieu l'ait ressuscité ici parce que c'était assez rare qu'une lapidation rate. Ils étaient assez efficaces comme moyen d'exécution. On n'en sait rien. Il y en a certains qui parlent du fait que c'est éventuellement à ce moment-là que Paul a eu des visions du ciel qui sont décrites dans 2 Corinthiens. En tout cas, il a dû se rappeler Étienne pendant que ça lui arrivait. Il a dû se dire, moi j'étais celui qui excitait les gens pour faire ça. Quoi qu'il en soit, il n'est pas mort. Verset 20, il se relève et il retourne dans la ville. Et là, on se dit, c'est quand même un sacré gaillard. C'est quand même... Il en avait quoi. pour parler, hein, je me permets de vous parler, ça me fait penser au rugby, quoi. C'est comme si tu te prenais un... Ouais, enfin non, t'as tout un pack de All Blacks qui tombe sur la gueule et tu te relèves et tu retournes. tu te fais complètement assommer, t'es mort sur le côté du terrain, tu fais, oh là, c'est bon, allez hop, je repars. On verra plus loin que dans cette ville de Lystre, il y avait un certain Timothée. Et donc, on peut supposer que cet épisode-là, les miracles, le fait qu'il ait annoncé Jésus et l'assurance avec laquelle il a parlé, annoncé, a dû impacter Timothée. Et ça deviendra un de ses compagnons de route pour ses voyages suivants. Et Paul repassera par Lystre et le prendra avec lui, en fait. Ça a dû marquer aussi dans la ville aussi de le voir revenir en ville. Ils ont dû se poser des questions. Ouais, c'est... Continuons. Le lendemain, il partit pour Derbe avec Barnabas. Après avoir évangélisé cette ville et fait un assez grand nombre de disciples, ils retournèrent à Lystre, à Iconium et à Antioche. Ils affermissaient l'âme des disciples, les exhortaient à demeurer dans la foi et disaient « C'est par beaucoup de tribulations qu'ils nous font entrer dans le royaume de Dieu. » Ils firent nommer pour eux des anciens dans chaque église et après avoir prié et jeûné, ils les recommandèrent au Seigneur en qui ils avaient cru. Ils traversèrent ensuite la Pisidie et vinrent en Pamphylie. Après avoir annoncé la parole à Perge, ils descendirent à Attalie. De là, ils s'embarquèrent pour Antioche, d'où ils avaient été recommandés à la grâce de Dieu pour l'œuvre qu'ils venaient d'accomplir. Après leur arrivée, ils réunirent l'église et rapportèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux et comment il avait ouvert aux païens la porte de la foi. Et ils séjournèrent assez longtemps avec les disciples. Donc le lendemain, il part pour Derbe avec Barnabas. Le ministère continue, ils évangélisent la ville. Ils ont du succès. Ils font un assez grand nombre de disciples. Et on voit qu'ils prennent le chemin inverse, en passant par Lystre, Iconium, Antioche ou Antioche de Pisidie. Sur la carte, on le voit bien, en fait, ils refont le chemin inverse avant d'embarquer. Et on voit que dans chaque ville, ils passent du temps pour encourager ceux qui étaient venus à Christ. Paul et Barnabas ne voulaient pas juste qu'il y ait des gens qui se convertissent, ils ne voulaient pas juste passer qu'il y ait de grandes foules qui disent « Ouais, Jésus !» et puis après, ils se cassaient et c'était fini. Ils avaient à cœur de faire des disciples, de faire des gens qui étaient attachés à Jésus, qui étaient ancrés dans la foi, qui avaient une doctrine saine, qui avaient une compréhension de ce qu'ils croyaient. Paul, plus que certains, savait que la vie chrétienne était difficile, qu'il fallait il y a pas mal d'opposition. Et dans toutes ces villes où il a été persécuté, lapidé, tapé, poursuivi. Et donc il savait que tous les chrétiens qui se trouvaient dans ces villes-là allaient sans doute subir le même genre de problème. Et il avait vraiment un cœur de repasser et de les fortifier.
À l'époque, ils n'avaient pas de... C'est difficile quand même, ça demandait quand même assez de temps. Déjà, il n'y avait pas d'église préétablie, il n'y avait pas de choses préétablies, il n'y avait pas de petite ville comme ça. C'était quoi les méthodes,
C'était beaucoup par voie orale et par des lettres qui se copiaient, se repassaient. Mais à cette époque-là, il n'y avait pas vraiment énormément de lettres, on ne sait pas, mais a priori, les lettres qu'on a de Paul qui après sont utilisées dans les églises et qui circuleront de manière assez générale. Il ne l'avait pas encore à ce moment-là. Donc, il y a un côté, Paul veut les fortifier, et il y a un autre côté où Paul fait confiance à l'Esprit Saint et à la direction de l'Esprit. Il reconnaît que l'Église est l'Église de Jésus, que c'est l'Esprit Saint qui l'a fait grandir, qui la dirige. Donc Paul fait ce qu'il peut pour enseigner, pour apprendre aux gens comment faire. On voit qu'il leur parle de son expérience. Il dit que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu, que ça va être difficile, qu'il faut rester attaché à Jésus.
Quand il dit désigner des anciens dans chaque église, ça veut dire qu'ils sont quand même passés le voyage, il dure que 3 ans, 4 ans. Ils ont quand même dû rester presque, ça a dû être presque un an, non, comme ça, ou ça, on n'a pas de, on va pas m'en donner.
Je sais pas ce qu'on a comme.
Il y a marqué le premier voyage, c'était 45 et 49.
Mais c'est sûr qu'il reste pas, c'est pas, il reste oui, pas deux jours quoi dans les villes. Mais je veux dire quand on regarde par exemple. Alors, j'avais pas encore fini parce que c'est vrai qu'il passe dans les villes et il laisse donner une structure, de mettre des gens responsables pour s'occuper des autres, pour définir les choses. Il avait sans doute certaines personnes avec qui il a passé énormément de temps à essayer de donner ses connaissances pour qu'après il y ait une personne qui ait une bonne base et une bonne quelque chose à remettre. Mais même s'il restait 6 mois ou 1 an dans une ville, combien de temps ça fait nous qu'on est dans une église, qu'on a la parole de Dieu et tout? Si on nous lâchait au bout d'un an après notre conversion et on nous disait bon, ben maintenant il faut que tu te débrouilles, reste attaché au Seigneur et que tu étais dans une ville où tout le monde te cherchait plus ou moins activement pour te taper dessus, c'est difficile. Là on voit encore un message quand il parle du fait que c'est par beaucoup de tribulations qu'on doit entrer dans le royaume de Dieu. Ça contraste encore avec beaucoup de doctrines ou de gens qui nous disent que la vie chrétienne doit être facile ou abondante matériellement. C'est pas vraiment quelque chose qu'on voit dans les Écritures. J'ai du mal à le trouver et là j'ai encore un passage qui me semble me dire le contraire. C'est pas que quelque chose d'horrible. L'esprit nous donne sa joie, sa paix, nous réconforte. Et Dieu est souverain dans son plan pour nos vies. Mais Paul, Jésus, la vie des apôtres, l'histoire de l'Église nous montre que il y a de l'opposition et des tribulations. Et donc effectivement, ils établissent dans les églises des anciens. Paul comprenait bien qu'il avait besoin d'une certaine autorité, qu'il avait besoin d'une certaine structure. Et ce, malgré la jeunesse spirituelle des croyants dans ces églises. C'est intéressant là aussi parce que de nos jours, on hésiterait sans doute dans pas mal de mouvements à faire de ce genre de choses où on dirait bon bah il faut avoir fait telle et telle chose avant de pouvoir comprendre comment gérer une église, il faut avoir ces diplômes là ou ces éléments là. Là Paul comprend que l'église est à Jésus. Ils font confiance au Saint-Esprit, sachant que c'est le Saint-Esprit qui fait croître l'Église. Et c'est sans doute en partie parce que nous, on fait moins confiance au Saint-Esprit dans la construction et dans l'établissement et l'affermissement des Églises, qu'on est moins prêt à donner ses responsabilités. On voit qu'il prie et il jeûne avant de recommander ses responsables à Jésus. Le jeûne, encore une fois, était un signe quand il y avait une grande attention, un grand souci vis-à-vis de quelque chose. Ils prennent vraiment ça à cœur d'établir des gens qui soient utilisés par l'Esprit pour garder ces églises et pour les guider. Et verset 26, il y a un beau verset, une belle expression avec, quand on voit à la fin, qu'ils reviennent à Antioche, donc en Syrie, d'où ils avaient été recommandés à la grâce de Dieu pour l'œuvre qu'ils venaient d'accomplir. Cette idée d'œuvre accomplie, c'est quelque chose de beau. On se dit, ils ont fait leur job là. Ils ont fait leur boulot. Évidemment, c'était juste la mission du jour. Il y avait encore des projets, des plans, des églises à implanter, des choses à faire, des corrections à amener, même dans les églises qu'ils venaient d'implanter. Ce travail-là n'arrête pas. Mais ils venaient d'accomplir quelque chose, ils venaient de faire quelque chose comme le Seigneur le voulait. Et de retour donc à Antioche, il raconte tout aux gens de l'église. Il raconte comment d'autres païens, d'autres non-juifs sont venus à Jésus. Qu'il y a d'autres églises qui sont en train de grandir sans une majorité juive. Et que sans doute les prières l'église d'Antioche avait eues, que Dieu touche le monde autour d'eux, que Dieu touche les païens autour d'eux, est en train de s'accomplir. Et ils séjournent assez longtemps avec les disciples, donc sans doute ils font une pause, mais ils avaient sans doute plein de choses à faire à Antioche. Donc là, on a la fin du premier voyage missionnaire de Paul, avec un bon bilan, avec Paul et Barnabas qui ne se sont pas arrêtés malgré toute l'opposition, qui ont accompli leur travail. Et donc nous aussi, on peut se poser la question... Qu'est-ce qu'il en est pour nous? Est-ce qu'il y a des choses qui nous font nous arrêter par rapport au travail vers lequel Dieu nous a appelés? Est-ce qu'on garde les yeux fixés sur Jésus pour continuer quoi qu'il nous arrive? Et on peut évidemment se référer aux paroles de Paul dans Philippiens 3, verset 12. « Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je poursuis ma course afin de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par le Christ Jésus. » Frère, pour moi-même, je n'estime pas encore avoir saisi le prix, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et tendant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour obtenir le prix de la vocation de céleste de Dieu en Christ Jésus. Et on voit dans ces phrases, dans ces paroles, vraiment sa motivation, son zèle. Et on le voit pratiquement dans ces voyages missionnaires, malgré tout ce qu'il pouvait y avoir comme opposition. Il continue en annonçant Jésus et en restant sous la direction de l'Esprit. Et c'est une bonne exhortation pour nous dans nos vies par rapport à comment nous réagissons face à l'opposition. Et je pense que pour la plupart d'entre nous, on n'a même pas vraiment de persécution extérieure dans la plupart des cas. C'est-à-dire que nous, c'est... Peut-être on est malade, on a des difficultés. Alors c'est pas des. Je dis pas que ce soit des choses faciles non plus, mais c'est souvent des choses plutôt personnelles. Dans ma vie, c'est plutôt moi qui empêche que des éléments extérieurs. C'est-à-dire que c'est. Je suis même pas. C'est un peu bon. À un moment, il faut dire j'arrête de. Peut-être l'obstacle, et ça devient les choses extérieures qui deviennent l'obstacle, et malheureusement souvent on n'a pas passé cette barrière. Nous on est encore souvent à l'étape de la lettre aux Hébreux parle, quand il nous dit qu'il faut laisser tous ces péchés qui nous retiennent et qui nous empêchent d'avancer avec Jésus. Est-ce qu'il y a des questions sur ce premier chapitre? Des remarques?
Verset 9, il y a écrit mes disciples, les disciples l'ayant entouré. Les disciples là, ce sont les disciples qui l'ont suivi depuis l'Istre ou ils ont déjà.
C'était sans doute des gens qui avaient déjà répondu à son annonce de l'évangile dans la ville. On ne sait pas exactement, c'était peut-être des gens qui étaient venus avec lui, mais on peut penser. Encore une fois, on n'a pas tout le timeline, enfin la chronologie de l'histoire ici. On est par exemple verset 7, on nous dit ils y annoncèrent l'évangile, on ne sait pas pendant combien de temps, peut-être ça faisait déjà plusieurs mois qu'ils étaient là. Et que cet épisode avec l'homme infirme arrive au bout de quelques mois, donc il y avait déjà des disciples dans la ville, et que c'est ceux-là qui sont venus. Alors quand il nous dit l'entourèrent, on ne sait pas s'ils sont venus voir s'il était vraiment décédé, ou pour l'enterrer peut-être, ou sais pas, mais ils viennent le voir, ils se relèvent et ils rentrent dans la ville. D'autres questions?
Oui, c'est l'expression « mais les disciples entourèrent ». Je trouve ça trop beau parce que ça veut dire aussi qu'ils me soignent, ça veut dire non, juste le mot « entourer ». Ils étaient juste là. Enfin, tu comprends ce que ça veut dire? Parce qu'on le croit mort, mais non, il y avait ses amis, alors c'est bon, en fait, il n'était pas. Donc ça sous-entend plein de choses, ce mot « entourer ». Ça veut dire le ramasser, le soigner, enfin, tout quoi. Ouais, c'est ça. Mais aussi, c'est trop beau.
Ouais.
Moi, je voudrais savoir, c'est la langue qu'ils parlent là, qu'ils utilisent quand ils parlent à ceux qui leur parlent en Icao ou je ne sais pas quoi.
Icaonienne.
Eux, ils leur parlent dans une langue que ils arrivent à comprendre.
Bah disons que dans l'Empire romain, il y avait une langue commune qui était le grec.
Le grec, ça s'appelait le grec.
Disons que c'était les restes de l'empire de la présence de l'influence grecque avec Alexandre et toute la suite de l'empire grec qui avait vraiment touché toute cette partie du Moyen-Orient et qui était bien resté dans l'influence culturelle malgré la présence des Romains quoi. En quoi leur parlaient Paul et Barnabas? Là, c'est intéressant parce qu'on se dit, je trouve que quand on lit ces histoires, toutes les villes, enfin la plupart des villes, il y en a certains qui sont plutôt en Grèce, et il y en a qui sont au Moyen-Orient. Mais tout ce côté nord de la Turquie, milieu de la Turquie, c'est vraiment un no man's land. Et je lisais par exemple qu'il y a encore pas mal de zones dans ces textes-là où, à cause des autorités turques, il n'y a pas encore pu avoir vraiment de recherche précise au niveau archéologique. Parce qu'il y a eu cette influence musulmane qui est arrivée vers l'an 600, qui a tout rasé, qui a tout détruit, alors que c'était une région développée avec des villes puissantes, et maintenant c'est un territoire. Enfin, je regardais il y a quelques années avec un copain on s'était renseigné pour aller grimper pour faire le sommet du Ararat, du mont Ararat, qui est à 5000 mètres et qui est en Turquie vers l'est, pas loin de là où il y a tout l'Irak, l'Iran, enfin vraiment une zone pas chouette. Et quand tu regardes les moyens d'accès, c'est vraiment, tu arrives sur la côte en face de la Grèce et tu prends des petits avions, tu prends des chèvres et des... Enfin, limite, c'est vraiment sous-développé, quoi. C'est des zones... Alors, il y a évidemment la Turquie, il y a énormément d'habitants, il y a 180 millions d'habitants en Turquie, mais c'est des zones... Et on n'a pas pu vraiment faire de recherche propre vis-à-vis de toutes ces choses... Et c'est un problème avec tous ces régimes musulmans qui refusent qu'on vienne faire des fouilles archéologiques dans leur territoire pour essayer de vérifier la véracité de certains textes de la Bible. Dans toute l'Arabie Saoudite, par exemple, ils interdisent la plupart des fouilles archéologiques. Enfin, quasiment tous les pays musulmans refusent, à part l'Égypte, mais c'est parce qu'ils ont les... Et du coup, il y a beaucoup de choses où on pourrait sans doute avoir plus de renseignements concrets, et malheureusement, on ne les a pas. Mais je trouve ça intéressant quand on lit ces histoires de voir qu'il y avait c'était des provinces romaines avec des routes que les Romains avaient construites entre certaines villes. Enfin, c'était des zones développées culturellement. Antioche en Syrie, c'était une des plus grandes villes du monde à cette époque-là. Enfin, c'était vraiment quelque chose de... c'était tout ce foyer autour de la Grèce, de l'ancien empire grec, et c'était vraiment quelque chose d'incroyable, alors que de nos jours, quand on regarde, c'est une zone, c'est des fermiers, quoi. C'est une remarque, moi, ça me marque quand je lis ces histoires-là. Voilà, donc on va faire une pause s'il n'y a pas plus de questions, et ensuite on va faire le chapitre 15.